Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
La saison de la chasse a ouvert officiellement le 10 septembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'occasion de dresser le portrait chiffré pour la Fédération nationale des chasseurs qui réalisait une étude nationale pour définir le profil socio-économique et professionnel des chasseurs. L'enquête menée auprès de 140 000 chasseurs de 12 500 sociétés de chasse relate Lyon Capital dans un article de Aimer le Golf. La France compterait 1,03 million de chasseurs dans le pays, dont 25 750 de femmes, reporte Le Chasseur français. Parmi cette population, 70% résideraient dans des zones dites rurales de moins de 2000 habitants. Celles-ci seraient en plus grande partie, 32%, issues de la classe des dirigeants, des professions intellectuelles et des cadres supérieurs. 17% de professionnels intermédiaires, 20% d'employés, 12% d'ouvriers et 10% d'agriculteurs. Une très large majorité de pratiquants, 98%, privilégient la chasse à tir, relate Le Chasseur français. Loin derrière, les chasses traditionnelles, la chasse à cour, serait quant à elle pratiquée par 5% des chasseurs. À noter l'initiative du président d'Aura, Laurent Wauquiez, en mai dernier. L'élu avait exprimé son souhait d'inclure dans le pass région un nouvel avantage de 30 euros par an pour les frais liés au permis de chasse ou au permis de pêche. Depuis 2016, le pass région en Auvergne-Rhône-Alpes offre des avantages financiers aux jeunes de 15 à 25 ans, essentiellement sur des produits culturels, éducatifs et sportifs. En réponse à cette annonce, des écologistes dénonçaient une promotion irresponsable de la chasse auprès de jeunes mineurs.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
C'est le lundi 18 septembre que débutait le procès du meurtre d'Emma Jacquet qui s'est déroulé au tribunal de Mâcon. Le procès de son petit ami se tenait donc à huis clos pendant 3 jours. Pour rappel, Emma Jacquet a été tuée de 47 coups de couteau à Clessé dans le Mâconnais en juin 2022, alors âgée de 13 ans, par son petit ami âgé d'à peine de 14 ans au moment des faits qu'il a reconnus. Après les réquisitions, ce mercredi 20 septembre, maître Patrick Usan, avocat de la famille d'Emma, nous accorde un entretien.
Ça a été pour la famille des moments très éprouvants que de devoir réinvoquer un drame qui s'est produit à quelques mètres de leur maison, là où leur enfant de 13 ans et 9 mois allait à la rencontre d'un garçon de 14 ans. Elle y allait parce que c'était son premier amour et lui l'a retrouvé pour lui donner la mort dans un projet qu'il avait mis en place depuis de nombreux mois. Et donc ça a été un moment atroce pour cet enfant qui a souffert le martyr, qui a reçu 47 coups de couteau en 4 séquences. Et pour les parents, ça a été un moment déchirant que de devoir réévoquer ces circonstances extrêmement douloureuses. À l'instant où nous parlons, nous sommes dans l'attente du jugement. La procureure de la République a requis une peine de 13 ans, qui est la peine maximale pour un mineur de 14 ans qui bénéficierait d'une altération du discernement. La durée de l'emprisonnement importe peu à la famille. Ça ne fera jamais revenir Emma, mais néanmoins, une peine significative apaiserait leur colère très légitime. C'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce qu'on peut effectivement anticiper sur ce genre de crime, en quelque sorte passionnel ? Est-ce qu'on pouvait l'anticiper ou finalement la maladie gagne surtout ?
Les circonstances ont démontré que ce garçon avait connu des problèmes de comportement extrêmement graves qui ont alerté l'école et ont également alerté le conseil général. Ce qui fait que le collège dans lequel le mis en cause et la petite Emma partageaient la classe de 4e était informé de la potentielle dangerosité de ce garçon et également était informé de la relation de flirt qu'ils entretenaient, mais ils se sont bien gardés d'en parler aux parents. Les parents, qui sont des parents très bienveillants, s'ils l'avaient su, auraient fait en sorte d'éviter ce drame en raisonnant la petite Emma de ne pas poursuivre cette relation. Donc il y a eu une occasion manquée, ce qui me semble être une défaillance de l'encadrement scolaire, et je vais demander au ministre de l'Éducation nationale de bien vouloir ouvrir une enquête administrative pour savoir quel est le fusible qui a dysfonctionné. Cette démarche que la famille m'a demandé d'introduire n'a qu'un seul but, c'est de responsabiliser davantage l'encadrement scolaire et faire en sorte que ce type de drame ne se reproduise plus.
Tout était hors norme dans ce dossier, confie Maître Amélie Gemma, avocate de la Défense, interviewée.
Alors, c'était éprouvant pour tout le monde, pour chacune des parties, bien évidemment éprouvant pour la famille d'Emma, parce que ça a ravivé beaucoup de choses en eux. Et puis, ils attendaient ça avec beaucoup d'impatience pour peut-être avoir les réponses à leurs questions. C'était éprouvant pour la famille de mon client, particulièrement la maman, parce que c'est pas simple d'être la maman de ce jeune garçon, et puis éprouvant pour la défense également. Alors les réquisitions, madame le procureur de la République, se sont élevées à une peine de 13 ans d'emprisonnement, avec à l'issue de cet emprisonnement un suivi socio-judiciaire sur 20 ans, ce qui, si ça devait être prononcé, ce qui obligerait mon client à suivre des soins au long cours, comme ça a été d'ailleurs préconisé par l'ensemble des experts qui sont intervenus dans ce dossier.
J'imagine que les parents qu'ils se sont exprimés également par rapport à cette situation, où le rapport est peut-être difficile, c'est une maladie, je crois, très difficile.
Alors, c'est une pathologie, effectivement, où les chances que les soins fonctionnent sont effectivement minimes. Minime ne veut pas dire impossible. Et moi j'y crois parce qu'il est jeune en fait, et qu'il a encore de nombreuses années devant lui justement pour, je l'espère, que les soins puissent être bénéfiques. Et les parents, alors moi je ne suis pas du tout en lien avec le papa, je suis en lien régulièrement avec la maman, et oui ça a été, elle s'attendait, si vous voulez, à ce type de réquisition, de toute façon. Les faits ont toujours été reconnus par mon client, donc on n'avait pas, si vous voulez, cette question de démonstration de culpabilité, puisque dès les premières minutes de sa garde à vue, de toute façon, mon client a reconnu les faits.
Il a reconnu les faits, et est-ce qu'il a du regret ou il est...
Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est, il a été diagnostiqué comme étant atteint d'un trouble de la personnalité schizoïde. Et c'est une pathologie qui a pour conséquence, en tout cas, d'empêcher la personne d'avoir un quelconque sentiment, un quelconque ressenti. Donc, et il était... c'est ce qui peut peut-être expliquer aussi cette... peut-être, hein. Je ne sais pas, on n'a pas de certitude, on n'a jamais de certitude, mais ce qui pourrait expliquer son passage à l'acte, c'est cette quête permanente de vouloir ressentir les choses et de ne pas y arriver, parce qu'il est psychiquement dans l'incapacité de le faire.
La maman d'Emma témoigne à la sortie de l'audience ce mercredi 20 septembre du tribunal judiciaire de Mâcon. La décision devrait être rendue en fin de journée.
Ouais, ce qu'on attend, c'est que... qu'il soit puni correctement et surtout qu'il ne ressorte pas pour nous, pour ne pas refaire la même chose, parce que rien dans tout ce qui a été dit par les experts, c'est-à-dire psychiatres et autres, ne conforte dans l'état du garçon. C'est-à-dire que la dangerosité est exprimée, donc il dit qu'il ne veut pas refaire la même chose, mais... Qu'est-ce qui nous le garantit qu'à 14 ans, on est capable de faire ça?
Ça voudrait dire qu'il sortirait à 27 ans? Avec si jamais...
Si jamais il y a les 13 ans prérequis, ce serait ça, ouais. Mm-hmm.
Mm. Donc, vous seriez déçu
ou... C'est surtout déçu que lui ressorte et une vie alors qu'Emma n'a plus sa vie, elle.
Mm. Donc c'est surtout ça qui fait mal.
C'est surtout ça, bien sûr, ouais.
Mm. Et comment on vit tout ça? C'est quand même... très émouvant, je pense, ces 3 jours.
Alors c'est compliqué, oui, mais je pense que c'est aussi une étape nécessaire pour nous, pour avancer aussi dans notre deuil, parce que le manque d'Emma, il est là tous les jours, mais à chaque fois, il nous revenait au visage tous les faits de ce qui a
qui avait attrait à...
de l'acte. On avait l'impression que la vie des mâles se résumait à cette nuit-là où elle a été assassinée. Et la vie des mâles est peut-être courte, mais elle était remplie de belles choses. Et tout ça, ça nous fait oublier le reste. Et on a besoin maintenant d'essayer de se retrouver sur les bons moments, que les bons moments d'Emma.
Vous pensez que vous allez tourner la page maintenant ?
Tourner la page, je ne sais pas, parce que je pense qu'on est marqué à vie. Et des assassinats comme ça, avec cette violence, départ de votre enfant, c'était ma fille unique, je pense que l'avenir est complètement bouleversé pour nous.
À 17h, la séance a été suspendue en attendant la décision du tribunal pour enfants de Mâcon ce mercredi 20 septembre dernier. Jour de procès. Cet homicide volontaire avec préméditation à l'assassinat d'Emma, tuée par son petit ami à Clessé, a eu lieu donc dans la commune du Mâconnais. Le mis en cause, aujourd'hui âgé de 15 ans, encourt d'une peine maximale de 20 ans, mais le ministère public a retenu une altération du comportement. C'est en fin d'après-midi de ce 20 septembre que le tribunal de Mâcon a prononcé la condamnation concernant le meurtre de la jeune Emma. Les propos recueillis à la sortie du tribunal de maître Patrick Usan, avocat de la famille.
Il ne faut pas oublier que nous étions devant le tribunal pour enfants, statué en matière criminelle, mais le tribunal pour enfants. C'est-à-dire que le tribunal a jugé un enfant qui a commis un crime atroce sur une autre enfant. Le maximum de la peine encourue, compte tenu de l'altération du discernement sur lequel personne n'apportait de contestation, était de 13 ans. Et le tribunal a prononcé la peine maximale. Ça signifie que le tribunal a pris en compte l'extrême atrocité du crime et a également pris en compte la blessure béante et incicatrisable de cette famille. Mes clients, qui sont maintenant devenus de proches personnes de moi, ne peuvent pas faire le deuil judiciaire. Le deuil judiciaire, c'est, pardonnez-moi, une couillonnade. C'est une étape. Ils sont plus dans l'expectative, l'incertitude du jugement. Le jugement est tombé. Dorénavant, ils vont pouvoir vivre leur chagrin à leur rythme, mais ils n'oublieront jamais. Et paradoxalement, ce garçon va ressortir. Et lui, il va avoir une vie. Il va y penser un peu à ce drame, un peu moins. Il n'y pensera plus du tout un jour ou l'autre. Alors que la famille que j'ai représentée, il pensera pour l'éternité. Et si le père et la mère sont toujours debout, vous comprenez ce que je veux vous dire, sont toujours présents, c'est parce qu'ils ont voulu faire face à celui qui a donné la mort à leur enfant. Et je crains qu'il y ait un phénomène de décompensation. Je les ai mis en garde, ils vont suivre des soins psychologiques pour rester parmi nous. Parce que n'oubliez pas que la mère a dit, lorsqu'elle a été interrogée par le tribunal, « Je veux rejoindre ma fille et je ne souhaite pas vivre longtemps pour rejoindre ma fille. » Ce sont des mots inoubliables.
« Je ne veux pas qu'une autre famille vive ce que l'on a vécu », confiait l'un des membres des parents lors de la sortie du tribunal à l'annonce du verdict de la fin de journée.
Bah écoutez, c'est le maximum qui pouvait être donné par rapport au tribunal pour enfants. Donc jamais ça nous ramènera notre fille, mais...
Mais au moins la présidente et les deux assesseurs ont suivi... ce qu'avait demandé la procureure, donc ça, je pense que ça nous touche quand même et ils ont compris, je pense aussi, la dangerosité du garçon et au moins reconnu la violence et la cruauté de ses actes sur Emma, quoi. Je sais pas si je pourrais le faire un jour, mais je pense que au moins cette étape du jugement, je pourrais le ranger dans un petit coin et plus ne penser à Emma par le biais du procès, mais parce que tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc je vivrai différemment. Mais Emma, elle sera toujours là et on l'oubliera jamais. La douleur, elle est toujours là et elle est là tous les jours. Et c'est pas parce qu'il va être 13 ans en prison que ça va changer quelque chose. Et c'est surtout qu'au moins je sais que pendant 13 ans, il ne refera pas la même chose.
On est inquiet par rapport à la suite, justement. Il a aussi une préconisation de suivi médical. Mais qu'en sera-t-il? Comme disait ma femme, en effet, on ne voudrait pas que telle chose se reproduise à nouveau.
Mais je pense que oui, parce que nous, on ne le gère pas de la même façon. Hein, on est le côté des parents et on voudrait que les autres enfants d'autres parents soient protégés. Donc oui, on espérerait plus. Mais au fond, il a obtenu le maximum qui était possible pour un enfant. Donc au moins, on a reconnu l'acte atroce qu'il a fait. Là, pour l'instant, on est déjà tout perdu et je pense que c'est trop tôt pour nous pour réaliser tout ça.
Le ministère public a requis 13 ans d'emprisonnement à l'encontre du jeune garçon qui avait reconnu les faits. L'adolescent, âgé de 15 ans, écope de la peine maximale compte tenu de son âge et de l'altération du discernement qui a été retenu. D'importantes obligations de soins et des mesures d'éloignement ont été assorties au jugement. Le tribunal ne pouvait prononcer plus car le meurtrier présente un trouble de la personnalité schizoïde. Il a par conséquent pris le maximum qu'un enfant puisse avoir compte tenu de ses pathologies psychologiques. Pour les parents, le tribunal a reconnu la dangerosité du garçon.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.